Le conseil de Renault-Nissan sanctionne Carlos Ghosn, arrêté le 19 novembre pour malversation financière par le gouvernement japonais. Le conseil Renault-Nissan démet Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, de ses fonctions. Il est accusé de détournement de fonds entre 2011 et 2015, à la fois des détournements de fonds publics, à savoir les impôts, mais aussi des fonds privés, à savoir les investissements du groupe. La réaction du gouvernement japonais, pourtant très libéral, a été immédiate et l'a sanctionné très durement. La presse française est très critique, mais n'est-ce juste pas tout simplement la loi et la responsabilité envers l'entreprise même? Pourquoi la France ne réagit pas est toujours dans les questions.
Benoît. Tu reviens sur les gilets jaunes.
Oui, tout à fait. Alors, l'île de la Réunion est en état de siège depuis maintenant 5 jours à la suite de la mobilisation dite des gilets jaunes. Une tension extrême, la plus importante depuis 1991, peu relayée en métropole alors que l'armée a été déployée ce matin sur l'île et qu'un couvre-feu a été mis en place. En cause, l'augmentation des taxes sur le carburant sur une île où l'usage de l'automobile reste majoritaire, tant le degré de présence de transport en commun est proche de zéro. Bien que la taxe sur le carburant ait finalement été gelée par la région jusqu'en 2021, pardon, les motivations s'élargissent à la vie chère, l'emploi, les retraites, symbole de l'inanisme politique vis-à-vis de ce territoire dont la population vit pour 40% sous le seuil de pauvreté. Nous reviendrons sur ce mouvement plus tard avec Maï.
Une enquête également du côté de La République En Marche, Arthur.
En effet, le procureur de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur l'origine des dons à La République En Marche pour la candidature d'Emmanuel Macron. En tout, c'est 144 000 euros qui, pour l'instant, sont dans le viseur de la justice. Parce que Macron avait réussi à réunir en tout 13 millions d'euros en quelques jours, ce qui présuppose pas mal de la nature sociale des donateurs. Mais il peut y avoir quelques fraudes. Par exemple, lorsque un foyer donne et la femme et l'homme peuvent aller au seuil maximum de dons. Mais il y a aussi le fait de donner au parti La République En Marche jusqu'au plafond autorisé, 7200 euros. Puis après, au candidat Emmanuel Macron, 7200 euros. Ce qui a été le cas, par exemple, d'un donneur américain, un riche milliardaire, Olivier Berger-Hoehnemann. On ajoute à ça des apéros dînatoires à près de 100 000 euros et utiliser le carnet d'adresses de Bercy pour essayer d'englober les différents donateurs. On pourrait alors aller vers une enquête pour corruption.
Ok, les élus étudiants qui sont dans ce studio trouveront sans doute d'excellentes idées pour les apéros dînatoires. On termine encore avec toi, Arthur, et une histoire d'étudiants internationaux.
Oui, Édouard Philippe annonce la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers non européens. De 170 euros, on passe à 2800 euros pour la licence et de 243 euros, on passe à 3800 euros pour le master et le doctorat. L'égalité avec les Français et les Européens est maintenant rompue. C'est pourtant bête parce que la France est le quatrième pays d'accueil des étudiants internationaux. Édouard Philippe pense que augmenter les frais pourrait rendre la France plus compétitive et serait le signe de notre éducation de qualité. Mais tout ça n'est que la première étape pour peut-être passer vers la tarification des frais d'inscription à l'université, comme le proposait un conseiller de Macron, Thierry Coulon.
Et on passe maintenant à l'international, Marie et Léo.
Et oui, on n'y croyait plus, mais cette fois, ça y est. Cette semaine et après 17 mois de négociations, l'Union européenne et la Grande-Bretagne sont enfin parvenus à un accord technique sur le Brexit. Parmi les points principaux du texte, plusieurs ont de quoi satisfaire les partisans du Brexit. Londres, par exemple, retrouvera le contrôle de ses frontières en se retirant de la zone de libre circulation des personnes. Le texte stipule en revanche que le Royaume-Uni ne pourra quitter la juridiction de la Cour de justice européenne qu'en 2020 et devra payer jusqu'à 45 milliards d'euros pour son départ. Mais ce qui cristallise les débats, c'est l'épineuse question de la frontière irlandaise. L'accord prévoit en effet la solution du filet de sécurité, ou en anglais « backstop ». Si aucun autre compromis n'est trouvé avant 2020, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord resteront dans l'union douanière européenne afin d'éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Une solution qui n'a plus ni aux ministres britanniques, qui ont été nombreux à démissionner, ni aux partisans d'un hard Brexit, soucieux d'éviter de faire partie d'une forme d'union douanière pendant encore plusieurs années. Si l'accord a été...
Eh bien, merci la régie, Marie. Si l'accord a
et
été...
Et oui, si l'accord, pardon, a été accepté par le gouvernement britannique, l'enjeu pour Theresa May est désormais de convaincre les conservateurs et le DUP, parti unioniste irlandais, de voter pour le texte qui sera présenté au Parlement en décembre. Côté Union européenne, c'est l'Espagne de Pedro Sanchez qui est menacée de refuser l'accord. La raison, le texte n'autorise pas clairement Madrid à avoir un droit de veto dans les négociations sur la rivière de Gibraltar, cette enclave britannique du sud de l'Espagne. Des négociations houleuses donc, auxquelles un sommet européen sera consacré ce dimanche.
La 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 la, je n'entends pas. C'est plus ou moins la position de Trump vis-à-vis des agences de renseignement américaines et notamment de la CIA. L'anglais a en effet confirmé la semaine dernière, d'après le Washington Post, que le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, était le commanditaire de l'assassinat de Jamal Khashoggi. Trump, dans une déclaration publiée ce mardi, a maintenu sa confiance envers l'Arabie Saoudite, laissant planer le flou sur l'implication du prince héritier et y indique également souhaiter que les États-Unis restent un partenaire, je cite, « inébranlable » de l'Arabie Saoudite. Cette relation, soutenue notamment par son gendre Jared Kushner, est jugée profitable par Trump pour la stabilité au Moyen-Orient, et notamment contre l'Iran. Tandis que de son côté, l'Arabie Saoudite n'a pas hésité à brandir la menace voilée d'une hausse des prix du pétrole en cas de sanctions à son encontre. Cette position diplomatique a suscité de nombreux malaises et protestations, même au sein des Républicains. Plusieurs membres du Congrès s'y opposant vigoureusement, allant même jusqu'à qualifier la Maison-Blanche d'agence de communication du prince héritier. Des sanctions bipartisanes du Congrès contre l'Arabie Saoudite dans un futur proche ne sont donc pas à exclure. La Turquie, quant à elle, a qualifié de comique la réaction de Trump. Signalons également de l'actualité de ce charmant pays qu'est l'Arabie Saoudite que les militants et militantes féministes et des droits de l'homme emprisonnés depuis plusieurs mois sans procès ont été torturés. Pays charmant, je vous assure. D'après Le Monde et Amnesty International, ils ont subi menaces, coups de fouet, chocs électriques et dans certains cas du harcèlement sexuel. Beaucoup ne sont actuellement plus capables de marcher, tandis qu'au moins l'un d'entre eux a tenté de se suicider en prison.
Et il n'y a pas qu'en Arabie Saoudite où la situation est délicate. À la frontière entre Israël et la bande de Gaza, de violents échanges de tirs ont amené Israël et les groupes palestiniens à conclure un accord de cessez-le-feu mercredi dernier. Le ministre de la Défense israélien, Avigdor Lieberman, a aussitôt annoncé sa démission, dénonçant, je cite, « une capitulation d'Israël devant le terrorisme ». Si Netanyahou a annoncé prendre lui-même les rênes du ministère, il se trouve dans une situation difficile. Sa majorité à la Knesset, le Parlement israélien, a été amenée à la plus courte marge possible et plusieurs de ses ministres ont appelé à des élections législatives anticipées. Visé également par des enquêtes judiciaires et fragilisé par la popularité décroissante de son parti national libéral, le Likoud, Netanyahou est pour l'instant parvenu à sauver son gouvernement et à éviter de nouvelles élections, invoquant notamment le caractère imprudent d'un renouvellement de gouvernement dans un climat aussi tendu.
84 morts, plus de 1250 disparus, 14 000 maisons détruites. C'est le bilan extrêmement lourd et encore provisoire des incendies qui continuent de ravager la Californie depuis deux semaines. Le Camp Fire, au nord de San Francisco, et le Woolsey Fire, près de Los Angeles, ont détruit plus de 100 000 hectares et forcé plus de 50 000 habitants à évacuer leurs maisons. La fumée des incendies a atteint New York cette semaine et continue de paralyser la file de San Francisco, dont la qualité de l'air s'est fortement dégradée. Ainsi, le Golden Bridge s'est retrouvé perdu dans la fumée, recouvrant les rues désertes de la ville, où les rares piétons portaient quasiment tous des masques respiratoires. Outre les parcs, les zoos, l'ensemble des établissements d'enseignement restaient fermés ces derniers jours ou avaient annulé toutes les activités en plein air. Lors de sa visite dans la ville de Paradise, 27 000 habitants maintenant en cendres, Donald Trump a continué d'incriminer une mauvaise gestion des forêts californiennes, minimisant l'impact du changement climatique et blâmant aussi un mauvais ramassage des feuilles. De la pluie est prévue en fin de semaine et bien qu'elle aiderait à éteindre les incendies, les autorités craignent surtout qu'elle forme avec les cendres des coulées de boue très dangereuses et qu'elle complique également la découverte et l'identification d'éventuelles victimes supplémentaires.
Merci beaucoup à tous les quatre pour ce rappel des titres et on continue notre journal avec son sujet long qui est de retour. Bonsoir Maë.
Bonsoir Rémi.